Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Il semblerait en amour qu'il y ait deux pentes. La première serait l'habitude prise des dons qui nous sont faits jusqu'à installer une sorte de lassitude, voire même le sentiment que les choses nous sont dues. La seconde serait le désir de toujours approfondir les dons quotidiens de nos vies comme un chercheur d'or creusant toujours plus avant la même cavité, comme un botaniste chaque jour émerveillé de son jardin. La messe, source et sommet de la vie chrétienne, comme l'on dit, n'échappe pas à cet enjeu, ce carrefour, lassitude ou approfondissement. Alors pour nous aider à ne pas tomber dans l'assédie, comme l'on dit aussi, cette émission pour en comprendre toujours plus les mystères. La messe et ses mystères, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, l'un de nos grands rendez-vous de cette année. Pour nous accompagner, comme chacune de ces émissions, Monseigneur Robert Le Gall, vous êtes donc archevêque de Toulouse, et faut-il le rappeler, il est bon de le rappeler aussi, pour une émission comme cela, vous êtes aussi moine bénédictin et auteur donc d'un ouvrage qu'on parcourt au long de cette année, La messe au fil de ses rites, paru aux éditions CLD. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Merci de faire un détour par nos studios, en ce lundi qui est normalement le jour de repos des prêtres et donc on imagine aussi des évêques, mais voilà.
C'est pas souvent le cas pour moi de fait, mais un petit peu quand même.
Voilà, merci beaucoup en tout cas. Donc cette émission, je le rappelle, pour ceux qui par hasard l'apprendraient pour la première fois, on parcourt donc ce livre, La messe au fil de ses rites. C'était signé à l'époque donc de Don Robert Le Gall. Vous étiez donc père abbé de l'abbaye de Kergonan. Je rappelle donc vous êtes rentré à cette abbaye en 1963. Vous aviez, j'ai calculé tout à l'heure, 17 ans, c'est ça, hein?
17 ans et demi, à vrai dire.
17 ans et demi. Voilà, vous êtes, puisque vous êtes né en 1946. Donc vous avez écrit ce livre quand vous étiez père abbé et on le parcourt. Alors aujourd'hui, on va rentrer dans la troisième grande partie de ce livre, que sont donc les rites de communion. Il faut le rappeler, toujours par souci de pédagogie, il y a trois grands temps dans la messe, en fait, la préparation des dons, la prière eucharistique et les rites de communion. Expliquez-nous un peu ces trois mouvements, Monseigneur Le Gall, de la messe.
Oui, c'est la seconde grande partie de la messe, parce que la première étant la liturgie de la parole, où on entend les lectures, et puis on chante le psaume entre
les lectures. La liturgie eucharistique,
c'est la liturgie de la seconde grande partie, liturgie de la parole, liturgie eucharistique, et dans cette liturgie eucharistique, en effet, trois parties, qui est la préparation des dons, l'offrande des dons, et la communion aux dons. Simplement. Et vous évoquiez à l'entrée de notre émission, de notre conversation là, sur la messe, la messe, c'est la source à laquelle il faut toujours revenir. Et je vous disais tout à l'heure que je viens de célébrer la messe à 7 heures avant de venir vous voir. C'est une messe toute simple, avec la religieuse qui est maîtresse de maison à l'archevêché. Une messe toute simple, une messe lue. C'est-à-dire pas chanté particulièrement, c'est que contraste avec des messes solennelles, comme je dois les présider souvent, et récemment c'était la messe de Saint Thomas d'Aquin, aux Jacobins, avec cette grande messe, avec la fête de Saint Thomas dont nous avons la tête et les os, et la grande procession des reliques de Saint Thomas dans le cloître des Jacobins.
Avec les deux dominicains grand
habit. Alors donc, voilà, c'est le même mystère, nous parlions de les mystères de la liturgie, mais c'est le même mystère au fond, mais il est bien aussi que les célébrations changent. Moi j'aime beaucoup aussi une messe lue tranquille, extrêmement méditative, et comme une messe solennelle, celle que je célébrais samedi dernier pour les obsèques d'un prêtre à la cathédrale de Rieux, par exemple. C'est également simple, mais également les obsèques d'un prêtre, c'est quelque chose d'important. Vous voyez, il y a différents styles, mais c'est le même mystère, et chaque manière nous aide à entrer davantage dans ce mystère, par les mystères, et nous sommes rendus actuellement donc vers la fin de la messe. Nous avons parlé déjà longuement de la prière eucharistique, c'est assez complexe, mais c'est vraiment central. Et la prière eucharistique dans laquelle on rend grâce à Dieu pour son Fils qui nous met dans les mains, pour ainsi dire, et pour que nous lui offrions véritablement. Et nous arrivons maintenant vers la fin de la messe, car le sacrifice, c'est-à-dire ce qui est fait sacré, donc a aussi par destination que nous y communions.
Alors, on va y venir, Monseigneur Gall. J'avais une autre question en préambule. Donc, de fait, les deux grands temps de la messe, c'est évidemment la liturgie de la parole et la liturgie eucharistique. Et à l'intérieur de la liturgie eucharistique, donc, il y a la préparation des dons, la prière eucharistique et les rites de communion. Est-ce que vous pourriez dire un mot de l'assédie? L'acédie, c'est un mot très compliqué pour beaucoup.
Tiens, ça n'a pas grand-chose à voir avec la messe, mais enfin, c'est intéressant. C'est une manière à ce qu'on ne se blase pas
voilà,
un petit peu de la messe.
Il peut y avoir dans toute vie chrétienne, une espèce de lassitude à un moment qui sourd.
C'est une lassitude ou une espèce de dégoût de la vie spirituelle, enfin, une espèce de bof spirituel, disant que à quoi bon tout cela, et c'est une tentation, et c'est une tentation particulièrement monastique, parce que la vie monastique peut être austère, et quand on reste dans une espèce de sécheresse ou bien de permanence qui est un peu difficile, donc il y a un espèce de dégoût qui est bien connu des spirituels, et les pères du désert déjà, en Égypte, en ont parlé souvent, et il y a un de mes confrères, mon confrère abbé bénédictin de Savandrille, et qui a écrit un livre, une thèse de doctorat là-dessus, et c'était particulièrement important. Et c'est vrai qu'on peut s'habituer à la messe. J'avoue que je m'habitue pas à la messe, et même si je la réitère chaque jour et quelquefois plusieurs fois par jour, comme encore avant-hier, j'ai eu la messe des obsèques samedi d'un prêtre, et puis l'après-midi j'avais une messe avec Foi et Lumière, avec des handicapés, des trisomiques en particulier, de tous âges. C'était très vivant, c'est un autre genre.
Comment on sort de l'acédie, Monseigneur? Vous n'allez pas nous faire un développement sur l'acédie, mais est-ce qu'il y a une première recette? J'avais cru comprendre, c'est de prendre conscience, pas du plan de Dieu sur nous, mais enfin du regard de Dieu sur nous, et de la manière d'envisager sa vie autrement, en tout cas.
Saint Thomas d'Aquin, dont nous parlions à l'instant, elle disait qu'il y avait deux remèdes à l'acédie ou au dégoût, le sommeil et la douche, ou le bain. Vous voyez, de manière pratique, de manière de se reposer, de dormir quand on peut, et puis une douche ou un bain, ça vous remet un petit peu, ça vous apaise. Mais là, c'est un premier temps, évidemment. Ensuite, par la grâce de Dieu, nous travaillons de manière à ce qu'on retrouve ce goût de Dieu, ce désir de Dieu dont parlent si souvent les psaumes.
Alors on va donc se lancer.
Le goût de la messe, le désir de la messe. Et quelquefois, je me dis, mais c'est fatigant, deux messes, quelquefois trois messes par week-end. Eh bien, une messe me repose de l'autre. Vraiment, une messe me repose de l'autre.
C'est des choses que vous partagez même parfois quand vous venez à la radio. Alors, les rites de communion. Avant qu'on se lance dans le tout début des rites de communion, donc c'est le Notre Père, on va s'arrêter longuement dans cette première partie sur le rite de communion. Donc, il y a un passage où vous dites la chose suivante, qui est la finalité de la messe, c'est de devenir toujours plus le corps mystique du Christ en recevant son corps sacramentel. Alors ça fait encore une question, on va dire, d'introduction, mais suffit-il, Monseigneur, de communier pour être le corps mystique du Christ? On pourrait se dire aussi qu'on peut très bien communier, il s'agit aussi de poser des actes, non? Que diriez-vous là-dessus quand vous dites on devient le corps mystique du Christ? Dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire?
Quand, en effet, on entend la parole de Dieu dans la première partie de la messe, quand on offre le corps et le sang du Christ séparés, d'ailleurs c'est l'intérêt du mot fraction sur lequel nous reviendrons peut-être, la fraction du pain qui dans les actes des apôtres désigne la messe, c'est l'Eucharistie, et c'est le corps le rompu pour nous, donc le Christ qui est mort, et dont le corps et le sang sont séparés, et donc nous communions à sa mort et à sa résurrection, et grâce à son sacrifice auquel nous participons par la communion. Évidemment, si la communion se limitait à goûter le corps et le sang du Christ et puis à goûter sa présence, et ce ne serait pas suffisant si la fin de la messe, mais nous y reviendrons en son temps, aller dans la paix du Christ, aller annoncer l'évangile, aller file, dégage, va-t'en annoncer la parole de Dieu. Et une des formules du nouveau missel, nous y reviendrons aussi, qui la nouvelle traduction du missel qui va paraître dans le courant de cette année 2020 où nous sommes, et bien il y a plusieurs formules pour le congé, pour l'ité missa est, etc. Donc, évidemment, la communion est pour nous une énergie et qui nous invite à être témoins du Christ et aller en mission, être envoyé. Et donc, c'est le test même d'une communion authentique. Ce n'est pas un nirvana spirituel allongé, ou comme on dirait, ou qui nous laisse
sur
une chaise longue. C'est de l'énergie et qui nous invite à partir en mission.
Alors, le Notre Père, Monseigneur, vous dites dans votre ouvrage, vous dites toute la nouveauté qu'il y a dans le Nouveau Testament, à la manière qu'a de Jésus de désigner donc son Père. Vous rappelez que dans l'Ancien Testament, il n'y a que 15 fois le terme de Père. Est-ce que vous pouvez juste commencer par ça? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça signifie que
c'est quand même étonnant de voir en effet que dans l'immensité de l'Ancien Testament, et qu'il n'y ait qu'une quinzaine de fois, donc cette mention de Dieu mentionnée comme Père, comme notre Père ou mon Père. Entre tes mains, je remets mon esprit, Père, comme dit Seigneur, en reprenant un psaume, Père, entre tes mains, je remets mon esprit, mais dans le texte du psaume, il n'y a pas le mot Père. En tes mains, je remets mon esprit adressé à Dieu. Jésus ajoute Père. Alors, la tradition, même en dehors des testaments, la tradition de la prière dans différentes religions, parfois mentionne Dieu comme Père, mais ce n'est pas très fréquent. Et ce n'est pas fréquent non plus dans l'Ancien Testament, que nous pouvons noter de manière explicite. Dans la tradition juive aussi, il y a un autre Père déjà, il y a un élément déjà qui est très proche de notre Père, par certains côtés, dans la tradition juive. Donc il y a quelque chose qui a évolué aussi. Mais évidemment, la particularité du Nouveau Testament, c'est le Fils est seul habilité à nous parler du Père.
Alors vous dites donc 170 fois, c'est le nombre de fois que le mot Père donc, est sur les lèvres de Jésus, en tout cas rapporté comme tel. 109 fois dans l'évangile selon saint Jean.
Vous vous rendez compte, 109 fois, c'est extraordinaire, cet évangile de saint Jean.
Rappelez-nous la grande nouveauté, peut-être, qui est venue apporter le Christ quant à la manière de désigner son Père. Certains en sont familiers, d'autres moins. Abba, qu'est-ce qu'il y a de si nouveau dans ce Abba ?
Abba, c'est un mot araméen qui désigne le Père, mais sous la forme de papa. Papa, vous êtes papa. Emmanuel.
Il paraît, on raconte ma vie à l'antenne. Donc,
voilà, papa, et plusieurs fois papa, hein, n'est-ce pas? Vos fils et vos filles, je ne sais plus si fils et filles.
Il y a les deux, mon capitaine.
Il y a les deux, c'est merveilleux. Donc bénissez le Seigneur. Et donc ils vous disent papa, ils ne vous disent pas monsieur mon père. Ils vous disent papa.
C'est pas faute d'essayer d'ailleurs, mais pour l'instant je n'y arrive pas.
Continuez s'il vous plaît. Donc papa, c'est un terme d'affection. Abba, dans toutes les langues, c'est dad, daddy, etc. Et papy, etc. Pas plus pour les grands-pères davantage, mais c'est un terme d'affection, quelque chose de très direct et de très profond. Et Jésus a employé ce père, ce nom de père. On a le mot Abba vient pas souvent dans le Nouveau Testament. Il y a deux, trois fois, je crois simplement trois fois ce mot Abba.
Dont le moment clé qui est au moment de l'agonie.
Le moment de l'agonie dans Saint-Marc particulièrement, dans les Galates aussi, et dans l'épître aux Galates de Saint-Paul et dans l'épître aux Romains. Mais dans l'évangile, ce n'est qu'une fois, si je ne me trompe pas, que le mot Abba. Et par contre, le mot père, le mot père, pater en latin et pater en grec aussi, c'est la même chose, pater au vocatif. Et ça revient c'est surtout saint Jean. Saint Jean, c'est tout l'évangile de saint Jean est une immense révélation du Père. Du Père. Le Père, personne ne l'a jamais vu dans le prologue. Et le Fils unique qui est dans le sein du Père est venu nous faire connaître.
Alors, il y a trois mouvements, dites-vous, dans le Notre Père. Est-ce que vous pouvez nous dire ces trois mouvements? Une partie qui s'intéresse à la gloire du Père Céleste, une autre qui concerne les dons qu'on lui demande, et puis après, une demande d'intercession, en fait, quand
oui, exemple. Et la première partie nous oriente vers Dieu. Le premier mot, c'est Notre Père. C'est Notre Père. Remarquez qu'on ne dit pas Mon Père. Mais c'est intéressant parce que à la fin de l'évangile selon saint Jean, quand donc Marie-Madeleine veut retenir le Christ et qu'elle voit ressuscité, elle dit, va dire à mes frères, elle l'envoie en mission, va dire à mes frères que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Donc c'est son Père à lui de manière unique par la filiation divine, mais Jésus nous a révélé le Père pour qu'il devienne pleinement nôtre. Donc c'est mon Père et notre Père, on peut dire notre Père, mais chacun de nous peut dire aussi à un moment particulièrement mon Père à Dieu, le Père. Et donc la première partie du Notre Père regarde vers le Père qui est invoqué d'emblée, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà la première partie. C'est toi, ton nom, toi. On regarde Dieu et on ne se regarde pas. que ton nom, c'est ton objectif vis-à-vis de Dieu qu'on regarde, qu'on contemple et qu'on aime.
Et après, on passe à quelque chose de, qui paraît très trivial, le pain.
Mais parce que nous ne sommes pas des anges, et le pain, à la fois le pain avec un adjectif qui est super substantiel dans la tradition, dans le texte grec, qui est aussi difficile à traduire parfois, et à la fois ça indique le pain concret de tous les jours, le pain de chaque jour, vraiment, et aussi le pain de chaque jour, le pain substantiel, c'est le pain eucharistique. Précisément.
La substance de chaque jour.
C'est la substance même du Fils de Dieu fait homme, donc son corps, son sang, son âme et sa divinité, comme on dit dans la tradition spirituelle de la prière. Et donc, c'est une demande, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, que nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et donc, c'est une demande de vivre, une demande des dons de Dieu et une demande de pardon, le pardon. Et ensuite, la supplication pour éviter le péché, et avec la dernière formule, les deux dernières formules, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Alors vous savez qu'on a changé la traduction de notre
Père. Alors j'allais
y
venir, il y a un autre passage, la pomme de discorde que constitue l'avant-dernière demande du Pater, dites-vous, telle que la traduction ancienne et la traduction nouvelle la présentent, aurait pu être évitée si l'on avait traduit épreuve au lieu de tentation. Alors c'est un autre choix qui a été fait par l'Église, d'une certaine manière.
Oui, j'avais écrit ça, bien sûr, avant que nous changions cela. J'avais contribué comme membre.
Ne nous laisse plus entrer en tentation et non plus ne nous laisse plus succomber. Alors, on avait fait une émission au moment du changement du Notre Père. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le fond la raison de ce changement?
J'étais impliqué dans cela parce que j'étais à ce moment-là président de la Commission internationale de tradition liturgique pour francophone. Et donc, dans l'hémicycle de Lourdes, quand on a traité ces questions-là, il y avait des moments un peu délicats. Je me souviens qu'un de ceux qui m'appuyait dans ce moment-là, c'était le cardinal Barbarin, qui vient d'être laxé, de commencer, c'est notre joie par rapport au procès qu'il avait à Lyon. Le cardinal Barbarin m'a toujours soutenu dans cela. Et en effet, la traduction que nous avions auparavant, c'était ne laisse pas succomber à la tentation. C'était la traduction qu'on a connue, j'ai connue dans mon enfance, dans mon adolescence, et pendant mes années vie monastique. Et donc, on a travaillé la question dans le cadre de la tradition officielle liturgique nouvelle, nouvelles, et donc on a travaillé ces questions-là longuement, et l'original, le grec, ne nous introduit pas dans la tentation. Indoukas en latin, c'était ça, ne nous conduit pas dans la tentation. En grec, c'est pareil.
Alors on avait juste mal traduit, ou est-ce qu'il y a une raison plus profonde au fait qu'on ait changé?
On avait donc, à la place de ne nous laisse pas succomber à la tentation, on était venu à ne nous soumet pas à la tentation. Et je n'étais pas moi-même dans les décisions au moment où on a adopté cette traduction, ne nous soumet pas à la tentation. Mais la difficulté, c'est que soumettre, c'est-à-dire ne met pas dessous, dedans, etc., c'est quand même un peu négatif. Nous mettre dessous, nous mettre en dessous, et c'est ambigu en tout cas. Et donc la preuve, c'est que je mentionnais cette difficulté au moment où j'écrivais ce livre. Et on n'était pas satisfait de sa traduction, qui rendait très souvent des remarques ou des objections par rapport à cela. Donc on est revenu à une traduction qui est très proche du grec et du latin, ne nous conduit pas, ne nous introduit pas dans la tentation. Et c'est une formule qu'on a exactement dans l'agonie du Christ, précisément, donc quand les apôtres sont auprès du Christ, veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. Et donc c'est la prière de Jésus lui-même, donc avant qui est en lien avec sa prière qu'il nous a enseignée dans notre Père.
On fait une première pause et puis on vous retrouve, Monseigneur, pour continuer à parcourir donc la messe et ses mystères. Alors probablement qu'on n'a jamais fait le tour des mystères de la messe. Hein. En tout cas, vous nous aidez à rentrer dans cette liturgie. Je rappelle le titre de votre livre, La messe au fil de ses rites, paru aux éditions CLD.
Ta vita exultavit. Et exultavit, exultavit spiritus meus in Deo salutari meo, exultavit spiritus meus. Exultavit spiritus meus in Deo salutari meo. Ex enim ex hoc beatam me dicent, me dicent beatam omnes generationes. Et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo. Quia respexit humilitatemus illes sui, ex enim ex hoc beatam me dicent beatam omnes generationes. Et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo.
Emmanuel Pella.
La messe et ses mystères, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin pour ceux qui nous rejoindraient. Nous sommes avec Monseigneur Robert Legal, archevêque de Toulouse, et qui est aussi donc moine bénédictin, qui fut un temps aussi père abbé de l'abbaye de Kergonan, et qui à l'époque avait écrit ce livre, La messe au fil de ses rites, que nous parcourons au long de cette longue série d'émissions. Il l'avait donc signé de Don Robert Legal. Alors aujourd'hui, donc, on parcourt un autre temps de la messe, la fin de la prière de la liturgie eucharistique, que sont donc les rites de communion. On a commencé à parler du Notre Père. Si on avance, puisqu'on fait une espèce de zoom arrêté, comme on dit dans le jargon du cinéma sur la messe, on rentre maintenant dans le rite de paix. Je vais vous laisser nous rappeler ce que c'est, et puis nous expliquer peut-être pourquoi, en tout cas vous en faites mention dans votre ouvrage, vous dites avec celle qui précède immédiatement la communion, il s'agit de la seule prière ordinairement adressée à Jésus dans la célébration de la messe. Vous rappelez que la messe, en fait, c'est une grande, on va dire, louange, une grande prière adressée plutôt au Père. Expliquez-nous, rappelez-nous ce qu'est le rite de la paix et pourquoi il est adressé à Jésus.
Jésus, en effet, est tout tourné vers le Père. C'est son être même de fils qui se reçoit du Père et qui regarde vers le Père, qui invoque le Père. Et toute la prière eucharistique est en effet adressée au Père. Et à la fin de la prière eucharistique, quand on dit la grande doxologie, par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles, immédiatement après, comme nous l'avons dit juste auparavant, on passe au Notre Père. Ce qui fait que, réconcilié avec le Père, nous pouvons dire avec Jésus, Notre Père, comme il nous l'a enseigné. Et vous savez que le Notre Père, il y a deux versions dans Saint Matthieu, celle que nous, pratiquement celle de la liturgie, et puis celle de Saint Luc, qui est un peu plus courte et un peu différente. Mais il y a aussi une autre, je voudrais rappeler que dans l'évangile selon Saint Jean, au chapitre 17e, qui est la grande prière sacerdotale, et qui est une sorte de prière eucharistique, grande prière eucharistique de Jésus, et ça commence par la formule, ainsi parla Jésus, il leva les yeux au ciel, l'heure est venue. notre Père qui est aux cieux, il, Jésus lève les yeux au ciel. Et il, dans le texte de saint Jean, il y a aussi qu'ensuite, sanctifie-les dans la vérité, que ton nom soit sanctifié, et c'est également dans notre Père. Le grand notre Père de saint Jean, c'est le chapitre 17e, extraordinaire. Et il est dit aussi dans ce même chapitre, garde-les du mauvais. Que, comme on dit dans la fin de Notre Père, on ne l'a pas souligné tout à l'heure suffisamment peut-être, et donc garde-les du mal, délivre-nous du mal, délivre-nous du mauvais, du malin, etc. Et donc tout ça se trouve avec beaucoup d'extension, beaucoup d'amplification dans le Notre Père de saint Jean, qui est le chapitre 17e. Et Jésus, donc se donnant au Père, dans un sacrifice, nous invitant à communier à son sacrifice, comme nous allons le voir bientôt aussi, par le fait même, nous met en paix avec son Père et en paix entre nous. Donc, quand on a prononcé notre Père, et on n'a pas beaucoup développé aussi ce qu'on appelle l'embolisme de notre Père, c'est-à-dire.
Alors, on ne peut pas s'arrêter sur tout, on ne peut pas s'arrêter, c'est vrai. Juste de répondre à ma question.
C'est épouvantable.
C'est épouvantable. Vous dites donc, aussi, l'Église, à ce moment-là, prend son Seigneur par les sentiments. Alors, redites-nous ce qu'on dit à ce moment-là dans la messe et pourquoi. On prend Dieu par les sentiments, comme vous dites.
Mais cette grande prière de Jésus qui est faite donc pour la paix, l'invitation à recevoir la paix de Jésus, c'est une prière qui, pour mon compte, me tient très à cœur. Vous connaissez cette formule, Seigneur Jésus-Christ, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et dans les grands discours de Jésus après la scène, il donne ces formules-là, je vous donne ma paix. Alors, il est la paix, et quand, à la fin de saint Jean, quand le Seigneur apparaît à ses disciples le soir de Pâques, qu'est-ce qu'il leur dit ? La paix soit avec vous. Deux fois. Évidemment, c'est le shalom alechem, shalom alecha des sémites, certes, mais ressuscité, il nous a réconciliés avec le Père. Chaque messe qui reproduit Missa Pascal nous donne comme fruit la paix. La paix qu'il nous donne. Et moi, je suis très touché par cette prière, parce que ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Ne regarde pas nos péchés. On en a fait l'expérience, on fait encore l'expérience dans le code des questions de pédophilie, notamment l'année dernière, en 2019, les 6 premiers mois, ça a été très dur. C'est difficile. On revient là-dessus avec les procès de Lyon, actuellement aussi. Donc, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, la foi de l'Église demeure. Et pour que cette volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Donc, je vous laisse la paix. Donc, Seigneur, tu as promis la paix. Eh bien, donne-nous toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Vous savez que dans mon diocèse de Toulouse, ma vision pastorale, c'est qu'il soit un, c'est le chapitre 17e, pour que le monde croit. Donc vers l'unité parfaite.
C'est aussi votre devise.
C'est aussi ma devise épiscopale et de Père Abbé aussi, de Unitate Trinitatis, de l'unité de la Trinité. Donc cette paix, cette réconciliation obtenue par le sacrifice du Christ, cette paix nous est donnée, le Seigneur veut nous la donner, donc il faut la recevoir et il ne faut pas hésiter à lui demander.
Voilà, vous rappelez aussi donc que dès la naissance de Jésus, la paix est chantée par les anges.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, voilà. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. C'est en effet, on a célébré ça dans le cycle de Noël récemment.
Est-ce que vous pouvez nous parler du baiser de paix, puisqu'à ce moment-là intervient donc dans la liturgie eucharistique le baiser de paix. Vous rappelez qu'à, on va dire, c'est semble-t-il laissé un peu à la discrétion du pasteur. Le baiser de paix, c'est pas forcément dans chaque liturgie eucharistique.
C'est une question qui est un petit peu controversée, celle du paix. Quand j'étais membre de la congrégation du culte divin à Rome, on a eu des réunions pour savoir si il fallait maintenir la paix à sa place ou une autre place. On a étudié plusieurs
possibilités. Alors je rappelle, pour ceux qui par hasard n'iraient pas souvent à la messe, c'est qu'à ce moment-là, on se donne justement la paix du Christ.
Absolument,
on se tend la main et on se fait rarement un baiser pour le coup.
On se tend la main, mais c'est pas un chèque Inde non plus. Et il y a plusieurs manières de faire. Mais en tout cas, donc, il était question de remettre, comme dans certaines liturgies, l'échange de paix au début de la messe, ou au moment de la préparation des dons, de l'offertoire, en mémoire de la parole de Jésus, et si tu viens offrir ton offrande, toi quelque chose contre ton frère, va réconcilie-toi avec lui, etc. Mais, donc on a donné notre avis au pape, la congrégation du culte divin, Moi, mon avis était de laisser là où c'était. Donc, je vois que c'est la tradition latine et que ça tombe en bonne place là aussi. Mais alors, ça dépend des célébrations, des assemblées,
parfois,
etc.
Certains fidèles n'aiment pas trop qu'à ce moment-là être bousculés dans leurs prières. D'autres, au contraire, s'étonnent que certains prêtres ne proposent pas que la paix soit donnée. Alors, je ne sais pas, quel est un peu.
Il y a une certaine liberté d'après le contexte qui est donné. Mais moi, quand on est en petit groupe, on n'a pas forcément à le faire. Et en tout cas, ce qu'il faut éviter, c'est ce que nous avons dit à Rome, et ce que Rome promeut dans la congrégation du culte divin, et c'est que ça ne devienne pas un champ de foire et que le prêtre n'aille pas jusqu'au fond de l'église à saluer les mains de tout le monde. On nous demande explicitement dans les préambules sur la messe, sur les prénotenda, c'est-à-dire la paix GMR, la présentation générale du missel divin que j'avais préfacé quand elle est parue, et donc le prêtre donne la paix à ses voisins, à ses concélébrants, mais qu'il n'aille pas dans l'assemblée. On se donne de proche en proche, les proches, on se à droite, à côté, à droite, à gauche, devant, derrière, mais on en reste là, on fait pas, c'est pas un espèce de mouvement brownien de toute l'assemblée.
Mais alors vous laissez entendre qu'aussi il y a une manière, c'est-à-dire à la fois il faut pas que ça soit banalisé, il faut pas que ça soit forcé, il faut exprimer probablement la tendresse et la justesse du ton qui convient à ce moment-là. Vous dites par exemple on peut tendre les mains et se les...
Oui, bah c'est pas un shake-hand, c'est un bon dommage. Je dis souvent quand on se joint les mains, on n'est pas à la télévision, je ne peux pas vous montrer ça actuellement, mais on prend les mains l'un dans l'autre comme si on les joignait. Et c'est pas un shake-hand, c'est vraiment une tendresse, une tendresse délicate, etc. Et dans les monastères, on se joue contre joue, etc. Et quelquefois, dans les milieux éclairés, c'est un coup de bouc, etc. Donc, faut trouver la manière juste, mais qui n'est pas simplement un geste de convenance. Il faut que ce soit quelque chose qui soit vrai. Quelquefois, un simple salut des yeux peut suffire. Donnez-vous la paix, mais en tout cas il ne faut pas que ce rite-là compromette le recueillement qui doit présider à la communion qui vient.
À ce propos, un petit peu plus tôt dans votre ouvrage, vous dites que il est bon donc que les fidèles se présentent, et vous venez d'en parler, à la liturgie eucharistique en étant réconciliés les uns avec les autres. Il y a donc un passage dans les Écritures aussi.
Oui, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure de l'Évangile.
Et vous rappelez que dans la règle de Saint-Benoît, puisque vous êtes moine bénédictin, il peut être bon de faire une digression, la règle prévoit deux fois par jour un rite particulier pour que tous les frères s'engagent à se pardonner mutuellement. Expliquez-nous ça.
À l'Aude et à Vêpres, Saint-Benoît dit que, alors que dans les autres heures liturgiques, on dit le Notre Père à voix basse et puis on reprend seulement la fin, nous laisse pas entrer en tentation, et la communauté répond... Et délivre-nous du mal. Mais à deux reprises, donc à l'office solennel, à la fin de l'office de l'aude le matin, à la fin de l'office de vêpres le soir, le père abbé chante seul, je chante ou quelquefois chante avec les autres, tout le Notre Père, pour que justement on dise explicitement, en présence de tous, le fait que pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.
Donc chaque moine dans son cœur à ce moment-là pose un acte
de pardon par rapport à la communauté, et ainsi ça lave ce que Saint-Benoît appelle les épines de scandale qui ont l'habitude de fleurir spontanément comme des mauvaises herbes dans chaque jour. Et ça, ce qui est vrai vaut de la communauté est vrai de la vie de famille, n'est-ce pas, et la vie de couple, etc. Donc on a besoin aussi de pardon, c'est important, on se donne et on se pardonne.
Alors justement, peut-être je demanderais un éclairage pastoral sur ce passage, parce que je pense qu'un certain nombre d'auditeurs ont dû se poser la question. Il y a ce passage donc dans l'Évangile selon saint Matthieu, quand tu présentes ton offrande à l'autel.
Oui,
si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis reviens et alors présente ton offrande. Probablement que un certain nombre d'auditeurs ont eu parfois quelques questions, quelques scrupules en allant à la messe. Maintenant, si tous les chrétiens étaient parfaitement réconciliés avant d'aller à la messe, certainement que le royaume de Dieu serait beaucoup plus présent sur cette terre. Quel est le conseil du pasteur sur ce sujet? On doit forcément appeler sa belle-mère juste avant la messe pour faire la paix avec elle? est-ce là un processus? Comment vous pourriez éclairer cette injonction évangélique?
Évidemment, la parole d'évangile n'est pas toujours à prendre au pied de la lettre et dans une immédiateté qui serait imprudente, qui ne serait pas vraie, parce que ce n'est pas possible, en fait. Mais c'est une des paroles un petit peu provocatrices, un petit peu de Jésus, comme il le fait parfois, et qui montre en effet l'importance dans son cœur de cette volonté de réconciliation. Parce qu'il y aurait une fausseté de donc à se présenter au sacrifice eucharistique et en ayant vraiment quelque chose contre un frère ou une sœur, une belle-mère, comme vous dites, mais qui ne serait pas donc en harmonie avec la vérité des sentiments. Donc il vaut mieux pas communier. Parfois des gens d'ailleurs qui me disent que dans des moments difficiles, etc., ou même ils peuvent assister à la messe, participer à la messe, mais au moment même s'il n'y a pas de rite de la paix, ils préfèrent ne pas communier quand ils sentent qu'il y a quelque chose qui bloque. De manière ou d'une autre. Et alors, il faut travailler à enlever ce blocage, et c'est un processus qui peut demander du temps parfois. Mais il s'agit d'une vérité d'attitude, et que la parole de Jésus se sollicite.
L'autre point, avant qu'on fasse une deuxième pause, c'est donc ce qui suit donc dans la messe, c'est la fraction du pain. Vous rappelez un certain nombre de choses. Une chose toute simple, ceux qui mangent le même pain sont copains, ce qui montre la profondeur originale du mot très usité
très beau,
de ce copain.
Ça.
Est-ce que vous voulez dire un mot à ce propos ?
Oui, c'est le copain comme convive. Convive et copain. Copain, c'est quelqu'un avec qui on partage le pain. Et convive, c'est vivre avec, c'est de la convivance, c'est vivre avec et se nourrir ensemble. Donc c'est des mots extrêmement forts. Et ce n'est pas pour rien que le Seigneur a fait de l'Eucharistie, de sacrifice eucharistique et de la table eucharistique, le centre de la vie chrétienne. Et la source et le sommet, comme vous le rappeliez au début de notre entretien. Et donc on se nourrit ensemble, on vit ensemble, on prend les moyens de vivre ensemble, nos chrétiens, en partageant le corps et le sang du Christ, comme nous allons y revenir. Et copain, évidemment, je ne sais pas si beaucoup de monde connaît cette étymologie, et c'est on mange le même pain, donc on est unis, on est nourris à la même source.
À la même substance, comme on disait peu plus tard. Dernière question avant qu'on fasse cette deuxième pause. Vous faites un peu d'histoire dans votre livre et vous rappelez la manière qu'on avait de partager le pain autrefois. Vous dites que dans les premiers temps de l'Église, en tout cas au moins au 7e et 8e siècle, on partageait réellement des pains. Et qu'après, ils étaient donnés, en effet, à la communion, qu'il fut un temps dans l'Église latine où le pain azyme, la célébration de l'Eucharistie avec le pain azyme, avait rendu cette fraction moins visible, et que depuis le Concile Vatican II, on en retrouve un peu sa signification. Alors faites-nous rapidement un peu cette historique.
L'historique, c'est pas seulement l'histoire, parce qu'il n'est pas rare que dans des célébrations un peu festives dans ce diocèse, ou dans d'autres diocèses, on ait à la fin de la messe la bénédiction du pain. Qui n'est pas le pain eucharistique. Dans du pain, souvent, la tradition dans le sud de la France, c'est du pain un peu à l'anis, un petit peu, et que je bénis avant la bénédiction finale, et qui est distribué à la fin de la messe. Et dans les liturgies orientales, c'est constant que dans la liturgie, ce qu'on appelle la divine liturgie, est moins fréquente que nos messes quotidiennes, là chez eux, mais il y a toujours, après la communion eucharistique, il y a ensuite la distribution du pain et du vin non eucharistique. Donc, et c'est intéressant, mais la fraction du pain, comme je l'évoquais au début de notre entretien aussi, c'est un des mots qui désigne l'Eucharistie dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2e, l'enseignement des apôtres, les prières et la fraction du pain, et c'est le fait que le pain soit rompu. C'est le symbole du Christ s'est offert en sacrifice. Et donc, le pain, c'est mon corps rompu pour vous, et mon sang versé pour vous. Donc, cette fraction est un des symboles du sacrifice eucharistique, de la mort du Christ, la mort sacrificielle. Et donc, quand nous communions à son corps et à son sang, on rappelle, en effet, on fait mémoire d'eux, ou comme on le disait lors de la prière eucharistique, et nous y communions, c'est-à-dire nous participons à ce sacrifice et nous nous offrons comme il s'est offert et nous nous donnons les uns aux autres aussi, ce qui nourrit cette paix dont nous parlions déjà.
Et puis, dans votre livre, vous n'en parlez pas, mais le pape François, dans Amoris Laetitia, parle d'un film, Le Festin de Babette, qui est un magnifique film.
Ah, je l'ai vu, ce film, je l'ai vu.
Qui peut éclairer aussi, quelque part, ce partage autour d'une table, ce partage du pain, et même le sens de peut-être pas du sacrifice eucharistique.
Il m'arrive d'en parler souvent, de ce Festin de Babette.
La profondeur de ce partage du pain.
Norvégien ou suédois.
On va faire une deuxième pause, Monseigneur, et on vous retrouve tout de suite. La messe au fil de ses rites, paru aux éditions CLD, c'est l'ouvrage que l'on parcourt au long de cette grande série annuelle.
Présence aux portes du Tarn, 97.9.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
La messe et ses mystères, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Pour ceux qui nous rejoindraient, nous sommes avec Monseigneur Robert Legal, archevêque de Toulouse. Et donc nous parcourons la fin du deuxième grand temps de la messe, donc la liturgie eucharistique, ce qu'on appelle les rites de communion. On avance toujours dans ces rites de communion. Je le rappelle, depuis le début de l'émission, donc on a parlé du Notre Père. Suit après le Notre Père, donc le rite de paix, puis la fraction du pain. Et on arrive donc à un autre moment de la messe qui s'appelle l'immixtion. Le geste de l'immixtion, mot qui vient du latin action de mêler, de mélanger. Rappelez-nous ce qu'est l'immixtion, Monseigneur Legal, et ce que cela signifie.
C'est une tradition pratique très, très ancienne qui fait que l'on prend une toute petite partie du corps du Christ et on la met dans le sang, dans le calice. Et donc ce qui est devenu un symbole un petit peu de ce que Dieu a séparé, Dieu va le réunir. C'est-à-dire que le corps et le sang, le corps et le sang du Christ se sont séparés. C'est pour ça qu'il y a dans le calice son sang et dans la patène il y a le pain devenu son corps. Et quand on voit les deux choses séparées comme ça, je le redis parce que c'est très important, et que c'est pas bon signe pour une personne quand on voit le corps d'un côté et le sang de l'autre. C'est un des symboles de la mort ou de la mort imminente. Le sang répandu, etc., sur les accidents, etc. Donc, et par contre, réunir le corps et le sang, mettre le corps dans le sang, et c'est pas seulement le sang dans le corps, c'est un symbole, et d'ailleurs la formule qu'on utilise à ce moment-là, c'est que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle, réunis. Ils sont séparés dans l'acte sacrificiel, ils sont réunis symboliquement là, et qui est symbole de la vie éternelle et de la vie du ressuscité. Voilà le sens actuel du rite. Mais ce rite, anciennement, qu'on appelle aussi commiction, et ce rite était une manière où on gardait quelquefois des espèces eucharistiques pour la communion des malades. C'est le sens de la réserve eucharistique, d'ailleurs, comme encore maintenant. Et donc, autrefois, c'était du pain ordinaire, du pain azim, certes, mais pas ordinaire, qui était plus complexe. C'est encore maintenant le genre de pain qu'on consacre dans les néocatéchuménats, par exemple, dans les grandes hosties épaisses, et donc c'était épais, et puis on gardait ce pain rassis eucharistique, si j'ose dire, et on l'assouplissait en le mettant dans le sang du Christ. Mais aussi c'était un symbole, on gardait de communion entre les églises. Entre les églises, donc on envoyait des parts du corps du Christ, et ça symbolisait notamment l'Eucharistie de l'évêque, de l'évêque, et donc l'Eucharistie centrale, et donc on apportait des morceaux de cette communion dans d'autres églises, et on mettait dans le sang nouvellement consacré cette partie ancienne en signe de communion. Donc c'est surtout le signe de la résurrection. Parce qu'on arrive à la communion, le sacrifice, le corps et le sang du Christ sont réunis. Et autrefois, c'était un signe de communion entre églises dans l'espace, si on peut dire.
Vous dites aussi, les chrétiens des premiers âges avaient un sens très vif de l'Eucharistie comme sacrement de l'unité. Est-ce que vous pouvez expliquer ça? Ça veut dire quoi?
Sacrement de l'unité, vous entrez dans un effet, quelque chose qui me tient très à cœur, que nous évoquions tout à l'heure aussi à propos de la prière sur la paix, et qu'une unité soit parfaite.
Ça veut dire quoi que les premiers chrétiens? Est-ce que vous pouvez nous expliquer évidemment pas votre...
Les premiers chrétiens étaient peu nombreux. Dès les actes des apôtres, en effet, ils n'avaient qu'un seul cœur et qu'une seule âme, comme dit le début des actes des apôtres. Et la première communauté de Jérusalem, en particulier, a eu ce désir d'une pleine communion, y compris concrète. Mais ça n'a pas marché. En fait, ça a capoté assez vite. Et ça reste toujours un idéal vers lequel nous allons. Alors, plus l'Église a grandi, et plus, en effet, le mystère de la communion entre chrétiens est devenu quelque chose d'important et d'exigeant. Mais c'est pas toujours évident. Et nous célébrions, il y a la fin janvier, tout récemment, donc la semaine de l'unité des chrétiens, on n'y est pas. Et on sait qu'il y a des tensions dans l'Église aussi, dans l'Église universelle, dans les Églises locales, etc. Dans notre Église de Toulouse, il y a forcément des tensions, mais il ne faut pas s'en inquiéter à autre mesure. Mais vous travaillez constamment et qu'il soit un pour que le monde croit. Donc les premiers chrétiens avaient ce sens-là, et donc suite à l'idéal, qui est toujours l'idéal de la première communauté de Jérusalem. Mais qu'un idéal qui n'a pas été réussi. Et donc, mais par contre, nous allons vers cette Jérusalem céleste, et qui, dans laquelle il n'y aura plus de pleurs ni de cris, etc., mais nous serons dans la lumière du Christ, et ça, on faut y travailler tous les jours.
Puis suit l'Agnus...
Par l'Eucharistie.
Puis suit l'Agnus Dei. Alors là aussi, il y a comme une vision. Hein, vous dites que l'Agnus Dei, donc l'agneau de Dieu, on en parle dans le livre de l'Apocalypse. Donc on désigne aussi probablement, on va dire, la personnification de cette unité à laquelle tout cœur aspire. Vous rappelez à ce moment tous les passages dans les Écritures aussi, où il est parlé de l'agneau dans le livre de l'Exode, dans le chant du serviteur souffrant, Saint Jean-Baptiste. L'Agnus Dei, rappelez-nous ce moment de la liturgie.
Une fois que la paix a été échangée, donc on chante l'agneau de Dieu, de même qu'il y a eu trois fois le Saint, Saint, Saint qui est issu du livre d'Isaïe au chapitre 6e, lors de la vision inaugurale de ce prophète, donc qui est la fin de la préface et qui est au début de la prière eucharistique, Saint, Saint, Saint. Alors de même aussi, trois fois agneau de Dieu. Et l'agneau de Dieu, ça fait allusion, vous venez d'en parler à l'instant, au chapitre 53e d'Isaïe encore, où le fameux chant du serviteur souffrant, et il était comme un agneau offert pour chacun d'entre nous, texte que l'on lit le vendredi saint à l'office de la Passion du Christ, dans l'après-midi ou dans la soirée. Mais le texte par excellence, c'est Jean-Baptiste qui, montrant Jésus, le précurseur, disant « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Ce que nous reprenons d'ailleurs dans le moment de la communion, dont nous allons y revenir aussi, mais avant que le prêtre ne dise « Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde », on chante cela dans Agnus Dei, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Or, c'est un moment particulièrement émouvant, que tout à l'heure vous parliez de cette prière pour la paix, qui est quelque chose qui nous tient à cœur, qui est une paix de tendresse. Et l'agneau de Dieu, c'est dans toutes les compositions musicales de ce passage de la messe, il s'agit du grégorien où il y a des quantités de Agnus Dei, de
vous dites que c'est souvent des pièces chargées d'émotions.
C'est extraordinaire. Donc il s'agit de
chargées d'émotions contenues et d'humilité.
Vraiment une douceur. C'est l'agneau conduit à l'abattoir d'Isaïe. Là, on voit cet agneau de Dieu et c'est chanté de manière extrêmement douce et humble en effet, mais chargé d'émotions en profondeur, et qu'il s'agisse des messes de Bach, de Mozart, de 18 ou de 20 ou 30 chants différents de grégorien pour l'Agnus Dei, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et les compositeurs aussi modernes, enfin aussi traitent cette invocation à l'agneau de Dieu de manière particulièrement sensible.
On s'arrêtera avec un moment qui peut paraître mystérieux pour les fidèles, parce que c'est un moment où souvent le prêtre parle à voix basse. C'est la prière du prêtre avant la communion. Expliquez-nous ce qui se passe derrière l'autel et ce que dit le prêtre. Parfois, il le dit un petit peu plus fort, donc on devine.
Normalement, c'est une prière qu'on doit dire à voix basse. Il y a deux prières au choix. Et il y a une qui est un peu plus longue et l'autre qui est un peu plus brève. Enfin, ce sont pas des prières relativement brèves l'une et l'autre. Là encore, je vous disais que l'invocation de Jésus pour la prière de la paix, c'est un des rares moments où on s'adresse non pas au Père, mais à Jésus. Et alors avant de recevoir le corps et sang du Christ, le prêtre dit c'est le Seigneur Jésus-Christ.
On va en lire une, donc « Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et ton sang n'entraîne pour moi... » Lisez-le plutôt, alors non, je vais le faire à votre place, pardon. « Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison. » Quel est le sens en fait de ce passage? Pourquoi cette prière à ce moment-là?
Je pense qu'on a le sentiment, c'est la seconde prière proposée là, dans cette prière, on a le sentiment de ne pas être digne. Ce qu'on va dire d'ailleurs après, au moment de la communion, je n'ai pas dit de recevoir, dans ces sentiments de son péché, finalement du péché que nous avons, et donc du besoin que nous avons d'être pardonnés et d'être mis à la hauteur un petit peu de ce mystère de la communion qu'on va recevoir. Et cette conscience de son péché donc est liée à ce que nous venons de dire de l'agneau de Dieu qu'on a chanté, qui enlève le péché du monde. Donc j'ai conscience d'être péché, c'est-à-dire enlève mon péché et rends-moi digne, dignifie-moi, fais-moi digne de te recevoir, mets-moi à la hauteur du don que tu as fait pour moi et que je me donne moi-même, purifié des péchés et apte à te servir pleinement.
Merci Monseigneur Le Gall d'avoir fait un détour par nos studios. On vous donne rendez-vous donc le mois prochain. On continuera donc ces rites de conclusion avec vous, donc à la fin de la...
Conclusion ouverte toujours, n'est-ce pas ?
Conclusion ouverte, bien sûr.
Ouverte à la mission.
La fin de la liturgie eucharistique. Merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre, La Messe au fil de ces rites, paru aux éditions CLD. Un grand merci à vous. Cette émission était réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.